Malgré la baisse des cas de Covid-19 en Argentine, je produis toujours mon programme depuis mon domicile à Buenos Aires dans le but de maintenir le lien avec nos auditeurs de RAE en langue française. Ainsi, qui vous parle, Eric Domergue, avec la production de Silvana Avellaneda, Julien Cortés, responsable du web, et sous la direction de Adrien Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité. Les titres. Les infections au coronavirus en Argentine sont à leur plus bas niveau depuis mai 2020. Le Mexique remémore les 43 étudiants d'Ayotzinapa 7 ans après leur disparition. L'envoyé américain à Haïti a démissionné en signe de protestation contre les mauvais traitements infligés aux migrants à la frontière mexicaine. Un vignoble argentin en tête du classement mondial des vins. Football, le Superclásico River Boca se jouera ce week-end avec le retour des supporters. Les infections au coronavirus continuent de diminuer en Argentine et ont atteint le 26 septembre leur niveau le plus bas depuis 15 mois. Ce jour-là, 562 infections ont été enregistrées et il faut remonter à mai 2020 pour retrouver un nombre inférieur. Dans ce contexte, l'hôpital Posadas de la banlieue de Buenos Aires, l'un des plus grands du pays, a signalé que cela faisait presque une semaine qu'il n'y avait pas de patients atteints de Covid en soins intensifs. En outre, le même centre de santé a révélé que d'une moyenne quotidienne de 300 consultations pour coronavirus, le nombre actuel est tombé à 30. Ces données sont parallèles au progrès de la vaccination, avec plus de 21 millions de personnes totalement immunisées contre le SARS-CoV-2, soit 46% de la population. Dans ce contexte, les autorités continuent d'aller de l'avant avec un nouvel assouplissement des restrictions. Au Congrès, les autorités parlementaires ont estimé que les conditions sont réunies pour reprendre les sessions avec une pleine présence des députés et des sénateurs. En outre, à partir de cette semaine, les Argentins entièrement vaccinés qui reviennent de l'étranger avec un test PCR négatif ne doivent plus se soumettre à l'isolement à leur retour au pays. Cette mesure a également été étendue aux visiteurs des pays voisins et, en novembre, elle le sera aux voyageurs du reste du monde. La semaine dernière, le gouvernement national a annoncé qu'il ne sera plus obligatoire de porter un masque à l'extérieur pour autant qu'il n'y ait pas de foule. Toutefois, les autorités sanitaires ont précisé que chaque province peut opter de suivre ou non cet arrêt. La ville de Buenos Aires, par exemple, a annoncé qu'elle attendrait que 70% de sa population soit entièrement vaccinée avant de lever l'obligation de porter un masque à l'extérieur. Pendant ce temps, au Brésil, plusieurs membres de la délégation présidentielle qui s'est rendue à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies ont contracté le Covid. Parmi les cas confirmés figurent le ministre de la Santé, le ministre de l'Agriculture et le député Eduardo Bolsonaro, fils du président Jair Bolsonaro, qui lui a été testé négatif. Le président brésilien a suscité la controverse en reconnaissant qu'il n'avait pas été vacciné et que l'accès à un restaurant de New York lui avait été refusé pour cette raison. Il a toutefois reconnu que sa femme avait été vaccinée lors de sa visite aux États-Unis, alors qu'une grande campagne de vaccination est en cours dans son propre pays, ce qui était largement critiqué par l'opposition. Le président paraguayen, Mario Abdo Benítez, a profité de sa participation virtuelle à l'Assemblée des Nations Unies pour critiquer le mécanisme COVAX de distribution mondiale des vaccins. Il a déploré que, bien qu'il ait payé les médicaments, son pays ne les reçoive pas en temps voulu. Au Mexique, 7 ans se sont écoulés depuis la disparition des 43 étudiants d'Ayotzinapa qui ont été honorés par divers actes, cérémonies et manifestations dans plusieurs villes. Dans la capitale, Mexico, des milliers de personnes se sont concentrées sur la place centrale du Zócalo. « Vivants, ils les ont enlevés, vivants, nous les voulons », pouvait-on lire sur plusieurs des banderoles qui comportaient également des demandes adressées au gouvernement du président André Manuel López Obrador pour la lenteur de l'enquête. Le 26 septembre 2014, un groupe d'élèves enseignants de l'état de Guerrero, dans le sud du pays, a disparu alors qu'ils se déplaçaient à bord de bus qu'ils avaient pris par la force et qu'ils comptaient utiliser pour se rendre à une manifestation dans la capitale. Selon l'enquête promue par le gouvernement du président de l'époque, Enrique Peña Nieto, les normalistas ont été interceptés par des policiers municipaux corrompus qui les ont remis à des trafiquants de drogue. Toujours selon cette version, la vérité officielle comme on dit au Mexique, les jeunes ont été tués dans une décharge de la ville de Cocula où leurs corps ont été incinérés et les cendres jetées dans une rivière. Mais les parents des 43 jeunes se sont toujours méfiés de cette histoire et ont réussi à imposer une deuxième enquête indépendante, soutenue par la communauté internationale, qui a réfuté plusieurs des conclusions officielles. L'équipe argentine d'anthropologie médico-légale a participé à cette enquête, qui a permis de déterminer que les victimes se trouvaient à plusieurs endroits et pas seulement dans la décharge de Cocula. De 2014 à ce jour, les restes de seulement 3 des étudiants ont été identifiés. López Obrador avait promis que justice serait rendue aux familles et il a promu plusieurs initiatives pour connaître la vérité. Mais à l'occasion de cet anniversaire, son gouvernement a été critiqué pour son manque de progrès. Ces derniers jours, les familles des 43 victimes ont demandé que les militaires prétendument impliqués dans cette affaire fassent l'objet d'une enquête. Dans ce contexte, López Obrador a demandé au gouvernement israélien de lui remettre un ancien haut responsable de la sécurité de Peña Nieto qui a été filmé en train de torturer des témoins pour valider la version officielle. Il convient de noter que depuis 2014, plus de 20 personnes présumées impliquées dans la disparition des 43 ont été tuées. Un reportage de France 24, il y a quelques années, décrit bien cette triste histoire du Mexique contemporain.
Il y avait la police municipale. Et on sait aujourd'hui que l'armée assurait la coordination de toutes ces forces ce soir-là. On a affaire à un crime d'État.
Ces images, nous sommes allés les tourner dans l'État du Guerrero au Mexique, où nous avons rencontré notre observateur José, un étudiant de l'école normale d'Ayotzinapa. 43 de ses collègues, des jeunes d'une vingtaine d'années, ont été kidnappés et on ne les a jamais retrouvés. Pourtant, on sait exactement qui a commis ce crime, des narcotrafiquants, mais aussi des policiers avec qui ils travaillaient ce jour-là, main dans la main.
Pourquoi tu as voulu étudier dans cette école ?
Pourquoi ? Parce que c'est une école faite pour les enfants de paysans. Car nos parents n'ont pas les moyens de nous envoyer dans une école privée.
Partout dans l'école, il y a les portraits de Lénine, de Marx, de Che Guevara. Pourquoi tu aimes Che Guevara, par exemple ?
C'est un personnage qui a marqué l'histoire. Quelqu'un qui n'a jamais abandonné la lutte. Il avait un idéal, le même idéal que nous avons dans cette école.
L'école d'Ayotzinapa forme les futurs instituteurs de la région. Mais ce n'est pas une école comme les autres, et on comprend vite pourquoi elle dérange les autorités. C'est quoi l'activité là ?
On fait du sport. Mais ensuite, quand on sera arrivé au bout de ce petit ruisseau, on va s'asseoir et on va faire une lecture qui s'appelle Analyse de la réalité sociale.
Sport et idéologie, tous en même temps.
C'est ça.
Ernesto commence par un peu d'éducation politique.
On ne va pas exonérer le gouvernement de ses responsabilités. C'est lui qui nous met sous pression, mois après mois, année après année.
L'étudiant explique ensuite les bons réflexes à avoir en cas de confrontation avec la police.
C'est sûr, l'adrénaline, c'est important. Sans elle, tu vas pouvoir sauter de là à là. Mais avec l'adrénaline, tu vas sauter jusqu'à celle d'après. Mais il faut aussi avoir une bonne connaissance du terrain. Le repérage, ça aide.
Vous êtes très jeune. Vous n'avez pas peur de la répression ? Car ils vous en parlent de la répression.
Je sais qu'ils peuvent nous frapper, nous réprimer, nous faire disparaître, nous tuer. Mais ça ne me fait pas peur. Au contraire, ça me donne du courage, de la rage.
Ils en sont convaincus. Ils sont porteurs d'un nouveau projet politique pour l'ensemble du Mexique.
Ce que j'ai dit à mes camarades, c'est que tout peut partir d'ici, de notre famille, de notre école. Dans notre ville, nous sommes en train de monter un conseil populaire pour se débarrasser du président. On veut que ce soit les gens d'ici qui administrent réellement leurs ressources.
À les écouter parler de Marx et de leur confrontation avec la police, on en oublierait presque leur âge. Comme eux, les 43 disparus avaient à peine 20 ans. Nous partons rencontrer la mère d'un des 43 dans un petit village à une heure de route de l'école. Bonjour. Vous êtes la mère de Verardo ?
Oui, c'est ça, la mère de Verardo Rodriguez Veillo.
Il vivait ici ?
Oui, et il vit toujours ici, car on l'attend toujours. C'est un jeune très travailleur. Parfois, il se fait embaucher à la journée, et il y va. Il me disait « chef », parce qu'il aimait bien m'appeler « chef ». Quand je serai instituteur, je vais m'acheter un petit terrain, je vais construire une maison, je vais vous aider aussi.
Il y a une enquête du gouvernement, vous en pensez quoi ?
Eh bien, c'est une enquête du gouvernement, donc ça ne sert à rien. Au lieu de veiller sur nous, le gouvernement nous tue, nous kidnappe. Je me sens vraiment, vraiment triste. Il manque quelqu'un de notre famille. J'y pense tout le temps. Comment il va ? Est-ce qu'on lui donne à manger ou pas ?
Aujourd'hui, c'est le jour de la fête nationale mexicaine. Les étudiants de l'école et les parents des disparus vont à Chilpancingo, la capitale de l'État, pour manifester.
Ils n'ont pas à faire une fête, comme si rien ne s'était passé. Parce que nous, il nous manque toujours nos 43 camarades.
Sur la route, les barrages s'enchaînent. Cela a valeur de rappel, le Guerrero est l'état le plus dangereux du Mexique. La haine est ancienne entre policiers et étudiants d'Ayotzinapa. L'affaire des 43 n'a fait que la renforcer. Aujourd'hui pourtant, pas d'incident. Les différents corps de police laissent le bus continuer son chemin.
Peuple, parlons d'une seule voix. Enlevons nos œillères. Une seule voix contre la corruption.
Les marches de protestation se succèdent et l'opinion publique mexicaine est en alerte. Le gouvernement fait donc mine de prendre les choses en main. De nombreux activistes mettent en doute les résultats de l'enquête officielle, qui voudrait que les jeunes aient été les victimes malencontreuses d'un règlement de compte entre narcotrafiquants.
Je vous emmène à l'endroit où les jeunes ont été attaqués. On est dans la rue où ont été poursuivis les étudiants par plusieurs patrouilles de policiers. Ici, on voit les impacts de balles. Comme vous pouvez le voir, c'est du gros calibre. C'est du béton. Et pourtant, la balle a pénétré loin à l'intérieur.
Est-ce que l'on sait de manière certaine qui a participé à cette attaque le 26 septembre ?
Il y avait la police municipale, la police du ministère, la police de l'État.
Et on sait aujourd'hui que l'armée assurait la coordination de toutes ces forces ce soir-là.
La version officielle, c'est que les narcos étaient aux commandes, que c'était eux qui prenaient les décisions. D'après vous, c'est la vérité ?
Ça, c'est la version officielle, car le gouvernement a toujours refusé d'assumer la responsabilité dans cette affaire.
Mais vous n'avez pas la preuve que c'est le gouvernement qui est responsable.
Si, il y a des preuves. Il suffit de regarder les conclusions du groupe d'experts de la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Ils ont travaillé sur de multiples témoignages, sur des vidéos. On a affaire à un crime d'État.
Une question reste entière. S'ils ont bien été tués peu après l'enlèvement, l'hypothèse la plus probable, où sont leurs corps ? Nous suivons une patrouille de la police fédérale dans un quartier d'Iguala tenu par des narcotrafiquants, le gang des Guerreros Unidos. Il a été établi que des membres de ce groupe ont participé à l'enlèvement des étudiants.
Allez, on se dépêche. Après, on revient.
Le procureur affirme que les 43 d'Ayotzinapa ont été brûlés par les narcotrafiquants dans une décharge. Ils pourraient aussi avoir été enterrés ici, dans ces collines isolées. Des fouilles ont été menées dans la zone, mais on a vraisemblablement interdit aux policiers d'en parler.
D'après la police fédérale, on a au moins 6 ou 7 autres fosses communes dans ce quartier, dans cette zone contrôlée par les Guerreros Unidos. Il est totalement impossible de dire si c'est ici qu'ont été tués et enterrés les étudiants d'Ayotzinapa. Il y a beaucoup d'autres hypothèses, et ce qui est terrible à la fin de ce reportage, c'est de se rendre compte que peut-être que les familles de ces jeunes ne sauront jamais ce qui s'est passé vraiment ce 26 septembre.
Cinquième anniversaire des accords de paix en Colombie. Le 26 septembre 2016, l'ancien président colombien Juan Manuel Santos a signé un traité avec Rodrigo Londoño, le commandant de la guérilla des FARC. Cela a mis fin à plus d'un demi-siècle de conflits armés qui a fait plus d'un quart de million de morts. Après la signature, l'accord a été rejeté lors d'un plébiscite et a dû être renégocié. Après la signature, les FARC ont rendu leurs armes et sont devenus un parti politique, tandis que Santos a reçu le prix Nobel de la paix la même année. Cependant, 5 ans plus tard, les promoteurs du processus de paix alertent sur le fait que le gouvernement actuel du président Iván Duque entrave sa pleine mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la distribution des terres. Par ailleurs, les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent que depuis 2016, près de 300 anciens guérilleros, militants sociaux et écologistes ont été tués. Human Rights Watch a même récemment averti que la Colombie risquait de revenir à des niveaux de violence antérieurs à l'accord. L'envoyé américain en Haïti a démissionné pour protester contre la décision de Washington de rapatrier les migrants haïtiens bloqués à la frontière avec le Mexique. Dans une lettre, Daniel Foote a qualifié la situation d'inhumaine et a déclaré qu'Haïti est un État en faillite qui ne peut tout simplement pas tolérer le retour de milliers de personnes sans nourriture, argent ou abri. Sous le pont frontalier qui relie la ville mexicaine de Ciudad Acuña à la ville américaine de Del Rio, quelques 13 000 personnes campent dans des conditions extrêmement précaires. La plupart d'entre eux sont des Haïtiens qui ont quitté leur pays après le tremblement de terre dévastateur de 2010 et qui, après avoir tenté leur chance en Amérique du Sud, ont commencé à migrer vers les États-Unis. Selon la BBC, beaucoup d'entre eux sont arrivés dans le nord du Mexique en pensant qu'ils seraient accueillis simplement en atteignant la frontière. Dans ce contexte, l'image d'agents frontaliers américains à cheval repoussant les migrants vers le Rio Grande comme s'ils étaient du bétail a suscité la controverse ces derniers jours. En réponse, la Maison-Blanche a annoncé qu'elle ne déploiera plus de personnel à cheval pour ces opérations. Dans d'autres nouvelles de la région, au Pérou, le corps du fondateur de la guérilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, a été incinéré 12 jours après sa mort. Bien que sa veuve ait réclamé son corps pour l'inhumer, le Congrès péruvien a adopté une loi autorisant la crémation des restes des personnes condamnées pour terrorisme. Le gouvernement a ainsi voulu éviter qu'une éventuelle sépulture ne devienne un lieu de pèlerinage pour les sympathisants de Sendero Luminoso et de Guzmán, morts en prison à l'âge de 86 ans. Enfin, au Chili, le projet parlementaire visant à approuver le mariage entre personnes du même sexe progresse. Une session plénière des commissions a donné le feu vert pour que cette initiative, déjà approuvée par le Sénat en juillet, soit traitée à la Chambre basse. Selon le portail d'information latino-américain Nodal, 70% des Chiliens sont favorables au mariage pour tous. Si la loi est adoptée, le Chili sera le 8e pays d'Amérique latine à accorder l'égalité des droits aux couples homosexuels, après l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Mexique, l'Uruguay, le Costa Rica et l'Équateur. Le vignoble argentin Sucar di Valle de Uco a une fois de plus occupé la première place dans le classement établi par le site web de World Best Vineyard. C'est la troisième année consécutive que la cave de la province de Mendoza est sélectionnée comme la meilleure du monde par un panel international de 600 spécialistes, sommeliers et correspondants de voyage. Le jury, qui a évalué plus de 1500 vignobles dans le monde, a pris en compte plusieurs aspects en plus du vin, comme la gastronomie, l'accessibilité, l'ambiance, l'attention du personnel et le paysage. Un autre établissement vinicole argentin, Catena Zapata, figure également dans le top 10 à la 7e place. L'œnotourisme en Argentine n'a cessé de croître au cours des 20 dernières années et le pays se réjouit du retour des visiteurs étrangers après un an et demi des restrictions imposées par le Covid. Cette semaine, des touristes du Chili et du Brésil sont entrés dans le pays pour la première fois depuis la suspension du tourisme international en 2020. Selon le gouvernement national, l'entrée des visiteurs des pays voisins est un test pilote en vue du mois de novembre, lorsque les frontières seront entièrement rouvertes aux voyageurs vaccinés du monde entier. Sport. Talleres de Córdoba est la sensation de la première division du football argentin. Ce week-end, il a battu Rosario Central 4-1 et avec 13 matchs disputés, l'équipe de Córdoba est en tête du classement avec 29 points. Par ailleurs, ce dimanche 3 octobre aura lieu le Super Clásico de l'Argentine. River reçoit Boca avec le retour du public pour la première fois depuis le début de la pandémie en mars 2020. Les autorités ont autorisé les stades à recevoir jusqu'à 50% de leur capacité, ce qui signifie que jusqu'à 36 000 personnes pourront assister au stade de River, le Monumental. Le ministre des Sports, Matías Lahmens, a prévu que ce quota sera progressivement augmenté en fonction de la situation épidémiologique. L'Alliance française de Buenos Aires organise un cycle en hommage aux 100 ans du début de la carrière littéraire de Victoria Ocampo, une des grandes femmes des lettres argentines. De Francesca Beatriz a été son premier essai en français, qui sera revisité, comme l'ensemble de son œuvre, les jeudis qui vont du 14 octobre au 4 novembre. La voici récitant Le serviteur inutile de Jorge Luis Borges.
Le serviteur inutile de Jorge Luis Borges. Le premier pont de Constitution, et à mes pieds, le fracas des trains qui tissent des labyrinthes de fer. La fumée et les sifflets escaladent la nuit qui tout à coup devint le jugement universel. Depuis l'invisible horizon et depuis le centre de mon être, une voix infinie dit ces choses, non ces paroles qui sont ma pauvre traduction temporelle d'une seule parole. Étoiles, pins, bibliothèques orientales et occidentales, cartes, échiquiers, galeries, lucarnes et caves, un corps humain pour circuler sur terre, des ongles qui poussent dans la nuit, dans la mort, ombres qui oublient, miroirs affairés qui multiplient, pentes de la musique, la plus docile des formes du temps, frontières du Brésil et de l'Uruguay, chevaux et matins, un poids de bronze et un exemplaire de la saga de Grétir, algèbre et feu, la charge de Hunin dans ton sang. Jour plus peuplé que Balzac, odeur du chèvrefeuille, amour et veille de l'amour et souvenirs intolérables, le sommeil comme un trésor enterré, le hasard et ses largesses, et la mémoire que l'homme ne peut regarder sans vertige. Tout cela te fut donné, et aussi l'ancien aliment des héros, la fausseté, la défaite, l'humiliation. En vain avons-nous prodigué l'océan, en vain le soleil que virent émerveillés les yeux de Whitman. Tu as gaspillé les ans et on t'a gaspillé et tu n'as pas encore écrit le poème.
No soy yo quien te engendra, son los muertos. Son mi padre, su padre y sus mayores. Son los que un largo dedalo de amores trazaron desde Adán y los desiertos. De Caín y de Abel, en una aurora tan antigua que ya es mitología, y llega sangre y médula este día del porvenir en que te engendró ahora. Siento su multitud, somos nosotros. Y entre nosotros, tú y los venideros hijos que has de engendrar. Los postrimeros y los del rojo Adán.
Et ainsi se termine ce programme en français de Rai l'Argentine vers le monde. On se retrouve dans une semaine.
Son los muertos.